Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de la culpabilité ressentie en postpartum et comment communiquer avec son partenaire pendant une de ces crises. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Tout au long de cet épisode, je vais te donner des conseils simples et rapides pour vivre au mieux ton postpartum. Pour les recevoir directement par mail, abonne-toi au conseil de Maman Relax. Il y aura un mail par semaine le jeudi après la publication du podcast. Le lien pour s'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos retours sur le podcast précédent. Finalement, c'était le vrai premier parce que l'autre, c'était ma présentation. Je suis vraiment heureuse que mon contenu vous ait plu et je suis super touchée des retours que vous m'avez faits. Comme je te l'ai dit précédemment, le thème de cet épisode, c'est la culpabilité ressentie par les mamans. Aujourd'hui, je veux te parler d'un des aspects du postpartum qui me tient particulièrement à cœur. Alors, tu pourrais me dire, oui, tous les aspects du postpartum me tiennent particulièrement à cœur, mais voilà, pour le moment, c'est celui-là qui est plus présent. Tous les jours, je vois des mamans qui sont désemparées et qui lancent des appels à l'aide sur les réseaux sociaux, quand je discute avec elles, vraiment dans plein de situations. Et elles sont désemparées parce que leur bébé ne va pas bien. Parce qu'il a du reflux, des allergies, des coliques, des problèmes de santé. Et ce sont toutes des choses qu'on n'espère jamais voir chez nos enfants et qui malheureusement vont les transformer et transformer notre maternité et notre postpartum. Pour te donner une idée, 32% des enfants de moins de 1 an présentent du reflux. Donc en réalité, il y en a sûrement plus parce que c'est les 32% rentrent dans les statistiques, donc il faut se dire qu'ils n'ont pas tous été diagnostiqués. 32% des mamans se retrouvent désemparées face aux douleurs de leurs enfants, face aux médicaments à leur donner, si le diagnostic est posé, face à tout ce que ça entraîne, aux pleurs, à la fatigue. Si on ajoute les autres pathologies comme les allergies, les coliques, les freins restrictifs, etc., on se retrouve facilement avec 50% des bébés qui n'ont pas une santé parfaite. Donc 50% des mamans qui vont faire face à des difficultés similaires. Si tu as la chance d'avoir un bébé en bonne santé, tu ne sais peut-être pas de quoi je te parle. Donc je vais t'expliquer un petit peu, je vais te faire une petite... Au début j'avais dit c'est une petite histoire, mais en fait ce n'est pas une histoire, c'est juste la réalité de la moitié des mamans. On va commencer forcément au début, la naissance, tu es heureuse, tu rencontres ton bébé, tout va bien. Parfois tu as peur ou tu es angoissée, mais voilà, rapidement tout ça disparaît, tu rentres chez toi avec ton bébé. Tu prends confiance en toi et tu deviens sa maman. Les jours passent, t'es à la maison en congé parental face à... Les jours passent, t'es à la maison en congé parental et ton bébé, si petit, si facile, si serein, l'est de moins en moins. Il dort moins bien, il commence à pleurer plus, il demande plus de contact. Toi, tu t'inquiètes pas plus que ça parce que pour le moment, c'est gérable, t'es un peu plus fatigué, mais tu te dis, ben voilà, des fois les bébés sont inconfortables, tout le monde te le dit, hein. C'est normal qu'il ait mal au ventre, c'est la digestion qui se fait, c'est normal, il faut qu'il fasse ses poumons, c'est normal. Bref, ton bébé continue à dormir de moins en moins, à être beaucoup moins confortable, toi aussi. Il boit difficilement, tu ne peux plus le poser, les pleurs sont devenus ton quotidien, clairement. Tu fais tout ce que tu peux pour l'aider et donc tu vas... Là, il y a un moment, tu te dis, on m'a dit que c'était normal, mais là, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, tu vas voir ton pédiatre. Bah, lui, il ne voit pas le problème, ton bébé... grandit bien, grossit bien, donc comme l'examen clinique est ok, il te dit ben, on va attendre encore un petit peu, mais pour moi tout va bien. Tu rentres fatiguée avec ton bébé, tu te sens forcément incomprise, tu doutes de toi, de ton ressenti, peut-être que tu t'es fait des idées simplement parce que t'es une maman trop inquiète. Si le pédiatre dit que tout va bien, c'est que c'est ok. Et puis le comportement de ton bébé s'améliore pas malheureusement. Et toi, tu essaies de t'adapter du mieux que tu peux, et donc forcément, tu reçois des remarques. On te dit qu'il faut le poser plus, que tu te fais des idées, que tous les bébés pleurent. Mais tu sais que quelque chose ne va pas, alors tu continues à chercher. Tu reprends rendez-vous chez ton pédiatre. Pour lui, tout va bien. Donc voilà, tu écoutes ton pédiatre et tu rentres chez toi avec ton bébé qui pour toi ne va pas bien, mais apparemment, le pédiatre a dit que c'était OK. Tu finis par essayer de chercher sur Internet, tu cherches sur Google, tu cherches sur les différents groupes de mamans sur lesquels tu es. Et là, tu te dis que tu vas mettre un post et tu verras bien, on ne sait jamais s'il y a d'autres mamans qui ont un bébé difficile. Parce que finalement, c'est ce que ton entourage commence à dire, que juste il est difficile. Tes mamans confirment ce que tu penses, t'es pas folle, ton bébé il est bien malade, il va pas bien. Ça te permet de vraiment Bah, noter sur une feuille ou dans ton téléphone la liste des symptômes que tu as pu observer chez ton enfant. Donc là, tu reprends rendez-vous chez ton pédiatre, t'es bien remonté, t'es sûr de toi, t'y vas avec des preuves, des données et il t'écoute enfin. Ton bébé est soigné, il va avoir un traitement et là, tu rentres chez toi un peu plus sereine et tu sais que au moins la prise en charge commence. Donc voilà, ça c'est une partie de ce que vit une maman dont le bébé n'a pas une santé parfaite. Tu commences par être dans l'inquiétude, l'incompréhension, la fatigue qui augmente encore plus. Et puis finalement, tu finis par être en colère parce que tu te dis oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui le voit. Et finalement, une fois que ton enfant est pris en charge, le sentiment qui domine souvent, c'est la culpabilité de te dire que t'as pas vu avant, que tu as écouté les autres, que tu aurais peut-être dû être plus intransigeante avec le pédiatre, d'avoir pensé que ton bébé était difficile ou que ta vie était plus simple avant, parce que forcément, quand ton bébé pleure toute la journée, dort très peu et que toi aussi, en plus d'un postpartum classique, mais il y a un moment, c'est logique et c'est normal de se dire que ta vie était plus simple avant. La culpabilité, bah voilà, après des jours et des semaines sans dormir correctement, de dire j'ai juste envie de partir de chez moi, qu'on me laisse seule et qu'on me laisse me reposer. La culpabilité finalement d'avoir fait confiance à ce médecin, à ce pédiatre, à tes proches, et de les avoir écoutés quand on disait que c'était rien. Et c'est normal, je comprends cette culpabilité, mais elle n'a pas lieu d'être et je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, t'es super forte, t'es courageuse et t'es la meilleure maman pour ton enfant. T'as les clés en toi pour l'aider, c'est ce que t'as fait. Et en te faisant confiance et en t'écoutant, quand t'as vu les changements de comportement de ton enfant et que t'as vu que c'était anormal, malgré l'avis du corps médical, t'as continué à chercher et tu t'es battue pour toi et pour ton bébé. Je te dis malgré l'avis du corps médical parce que souvent la médecine se positionne comme celle qui sait. Et c'est vraiment quelque chose ça, qui me met en colère quand une femme me dit « Je suis allée chez mon gynécologue et je me suis sentie comme une enfant qu'on n'écoute pas. » Et déjà, bah, dans mon monde et dans ma vision des choses, les enfants, on les écoute, on tient compte de ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, la médecine, elle est au service des femmes, au service des bébés, au service de tout le monde. Elle n'est pas au-dessus. C'est quand tu vas chez ton médecin, tu as un échange avec, vous êtes égaux. Si ton médecin, c'était Dieu, tu vas, tu t'assieds, tu dis rien, et hop, le problème est réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il a besoin de toi, de ce que tu vas lui dire pour être guidé et pour pouvoir poser son diagnostic. Donc c'est un vrai travail d'équipe et sans toi, c'est impossible bah, qu'il fasse son diagnostic. Donc ça me fait un peu rire quand on dit oui, mais on sait mieux, c'est nous qui avons les données et tout. Non, on utilise juste ce que les femmes, les bébés, les enfants nous disent. Pourquoi tu te sens particulièrement infantilisée pendant la grossesse et pendant le postpartum et comment est-ce que ça va entretenir ta culpabilité par la suite? Pour commencer, bah, t'as peur. T'as peut-être peur pour ton bébé. Est-ce que début de grossesse, ah je suis enceinte, super. Bon. Est-ce que je vais pas faire une fausse couche? Est-ce que mon bébé va aller bien? Prochaine écho. Bon, la prochaine écho, c'est l'échographie morphologique. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'a pas de malformation? Est-ce que mon bébé va bien? Ouf, merci docteur, mon bébé va bien. Et puis la suite. Est-ce que son poids est bon? Est-ce que sa taille est bonne? Voilà. Et puis la naissance. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais aller bien? Est-ce que mon bébé va bien? Enfin voilà, la peur fait partie bah, de la vie et est quand même assez présente dans le processus de la naissance. Ensuite, bah, pendant les consultations, forcément, souvent, le médecin, bien assuré dans son fauteuil, avec sa blouse blanche et son stéthoscope, je vais y arriver, autour du cou. Il te dit, bah, je vais faire telle chose, et puis on se revoit dans 3 semaines. Et la majorité du temps, il ne te demande pas ton avis, il ne t'explique pas à quoi servent les examens qu'il veut faire, ni ce qu'il recherche, ni si c'est normal ou anormal. Et donc tu ressors et tu es là, bon, bah, ok, on va faire ça et tout, mais je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que je vais bien? Est-ce que mon bébé va bien finalement? Déjà, ça, c'est pas une consultation qui est respectueuse. Normalement, on demande à la femme comment elle va, on écoute la réponse, ce qui est la base. Et ensuite, on va lui expliquer les différents examens à faire, ce qu'on va rechercher, on va lui demander si elle est d'accord, et ensuite on va passer à l'examen. Et c'est exactement la même chose quand on s'occupe de ton enfant. On doit t'expliquer tout ça, on doit te demander si tu es d'accord qu'on le fasse, et ensuite on va passer à l'examen, au prélèvement ou à ce qu'il y a à faire. Donc là, clairement, je te parle du consentement. Aucun acte médical ne peut être posé sur toi si tu n'as pas donné ton accord. Aucun acte ne peut être fait sur ton bébé si tu n'as pas donné ton accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et malheureusement, il y a beaucoup de professionnels qui l'oublient, soit parce qu'ils sont convaincus de savoir ce qui est mieux pour la patiente, soit par habitude. Et toute cette atmosphère, forcément, participe au fait que tu aies appris à écouter les médecins et que tu as appris à dire oui et qui t'infantilise quelque part. Si c'est pour te donner une idée, par exemple, sur la puissance que les médecins peuvent avoir, c'est qu'au Brésil, le taux de césarienne est de 52%, alors que l'OMS recommande un taux de césarienne maximum de 15% par pays. Donc comment est-ce qu'on se retrouve avec 52%? Simplement parce que les médecins ont utilisé la peur des femmes pour leur imposer des césariennes, et donc forcément ça va avoir un impact sur ton postpartum, sur leur postpartum aussi. Et leur argument, c'est que programmer une césarienne, c'est plus sûr pour la maman, on se remet plus vite et on sait mieux s'organiser. Alors clairement, les médecins sont plus payés parce qu'une césarienne, c'est un acte chirurgical. T'es moins dérangé parce que quand t'as 52% de tes patientes qui se font césariser, ça veut dire que t'as pas des dames qui arrivent pendant tes gardes pour accoucher. Avec le temps, forcément, c'est rentré dans les pratiques du pays et donc beaucoup de femmes maintenant trouvent ça normal. Et en plus de ça, tu as l'hôpital qui encourage ça parce qu'il y a des fêtes de naissance qui sont organisées juste après les césariennes pour les mamans. Donc tu peux inviter tous tes proches, ta famille et tout. Il peut y avoir jusque 100 invités. Il y a de la décoration, des gâteaux. Enfin, c'est une vraie fête, sauf que tu viens d'accoucher, enfin, tu viens d'être césarisée. Tu viens d'accoucher, une césarienne, c'est un accouchement. Tu viens d'être césarisée, que tu fais ton post-op et que tu as ton bébé, que tu viens de rencontrer. Et non, on fait une fête de césarienne. Et évidemment, comme tout se fait à l'hôpital avec les prestataires et tout, l'hôpital perçoit une commission sur ce qui se passe. Donc clairement, là, c'est une histoire d'argent, quoi. Concernant la pratique des césariennes au Brésil, si ça t'intéresse, il y a un documentaire sur Netflix qui en parle. Tu tapes simplement césarienne Brésil dans ta barre de recherche et tu le trouveras. C'est en deux ou trois épisodes et c'est vraiment bien fait et intéressant. Et là, tu as des femmes qui témoignent et qui expliquent pourquoi elles ont vécu ça ou pourquoi est-ce qu'elles ont eu une première césarienne, c'était le premier bébé, elles ne savaient pas, elles ont fait confiance au corps médical. Et après avoir vécu ça, elles se sont dit, mais c'est pas normal ce que j'ai vécu et c'est pas ce que je veux. Et donc elles sont dans un autre cheminement pour la grossesse suivante. Enfin, franchement, il y a plusieurs points de vue qui sont expliqués, c'est assez intéressant. Alors comment te faire confiance, te sentir légitime en tant que mère quand on a passé 9 mois à te dire que ton corps sait pas faire, que tu sais pas faire et que c'est le médecin qui va tout régler. C'est compliqué de prendre confiance en soi et de sortir de la maternité et de se dire, bon, c'est moi qui ai la responsabilité, quand finalement, tout le long, tu as eu l'impression de pas l'avoir, alors que normalement tu l'as, mais on t'a donné le sentiment que c'était le médecin qui réglait tout. Par exemple, pour te dire, il y a des fois des cascades d'intervention qui sont juste liées au manque de matériel, au manque de personnel, mais aussi à la vision qu'a le médecin de la naissance. Un médecin va chercher, va se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on va le chercher, on va le trouver. Alors qu'une sage-femme va connaître sa physiologie, connaître sa pathologie et faire confiance à la femme, faire confiance au bébé, laisser les choses aller. Et s'il y a le moindre signe d'alerte, alors oui, on investigue et on cherche. Mais on part du principe que si tu as une bonne santé, etc., si tu n'as pas d'antécédents, que la femme va bien et elle est capable de mettre au monde son enfant. Et le bébé est capable de se mettre au monde parce que vous êtes deux à travailler là-dedans. Par exemple, l'auscultation intermittente, c'est le fait d'écouter le cœur du bébé avec un pinard, c'est un stéthoscope pour écouter le cœur du bébé, qu'on met simplement sur le ventre de la femme et on écoute. C'est une pratique qui permet de réduire le taux d'instrumentation de césarienne. Il y a eu des études qui ont été menées pour les mêmes situations, on va dire situation de départ, des femmes dans la physiologie parfaite où tout va bien. Si on utilise le pinard, l'auscultation intermittente, à la place du monitoring en continu, il y a moins d'instrumentation, moins de césariennes ou d'accidents ou de bébés qui vont pas bien. Sauf que l'auscultation intermittente, donc c'est vraiment aller écouter le cœur du bébé de façon. Il y a une réglementation, on écoute autant de secondes après la contraction en fonction de la phase du travail. Et forcément, plus le travail avance, plus il faut écouter longtemps parce que c'est des moments spécifiques où si le cœur du bébé fatigue, ben, on peut l'entendre. Alors que quand tu as le monitoring en continu, ben, tu peux avoir des petites baisses, des petites fatigues, mais qui sont tout à fait physiologiques et qui ne sont pas significatives. Ton bébé va quand même bien, sauf que ça a été enregistré sur le papier. Et donc, on commence à se dire, bon là, il commence à être fatigué, non, on n'irait pas en césarienne. Et là, on va aller dire à la dame, bon là, on commence à voir que votre bébé, il est un peu fatigué et tout, il n'y a pas d'urgence, mais on préfère faire une césarienne parce que ça a été enregistré sur le tracé et que tout comme la femme est guidée par la peur, parfois les soignants sont aussi guidés par la peur et ils arrêtent un petit peu de faire confiance aux femmes et aux bébés et à leur corps. Et ils disent, bon bah, là, il y a eu des petites fatigues enregistrées. Si par malheur, il y a quelque chose de plus important par la suite, on ne veut pas prendre le risque parce que forcément, ils auront un procès sur le dos après et tout ce que ça entraîne. Donc, par peur aussi, on se dit, bon bah, on va césariser ou alors on va faire accélérer la naissance, on remet du synto, on fait des choses pour accélérer. Et c'est ben, souvent, comme je l'ai déjà dit, souvent quand on essaie de faire accélérer les choses ou qu'on met le doigt dans l'engrenage, qu'il y a des catastrophes qui se passent, des difficultés, parce que des catastrophes, pas toujours, mais des difficultés qui peuvent être très mal vécues par les femmes et par les bébés. Sauf que par exemple, l'auscultation intermittente, elle demande une sage-femme pour une patiente. Et donc en milieu hospitalier, c'est pas possible de le pratiquer. Il n'y a pas assez de personnel. Indirectement, le fonctionnement du milieu hospitalier participe au fait qu'il y ait une augmentation des instrumentations et une augmentation des césariennes, qui, elles, nécessitent la présence d'un gynécologue, des opérations, du matériel qui doit être stérilisé, qui, enfin voilà, ça. Un acte, c'est toute une chaîne qui est derrière et tout un coût qui est derrière. Quelque part, l'hôpital ne s'aide pas. Et en plus, ça a un impact négatif sur la maman et sur le bébé. Donc pour moi, c'est vraiment urgent de refaire les calculs et de donner les moyens aux femmes de se faire confiance et d'être actrices de leur naissance et d'avoir plus de sages-femmes. Franchement, tout le monde serait gagnant et serait plus serein. Donc comme je te disais, tout ça a des conséquences sur le déroulement de l'accouchement, sur la maman, sur le bébé. Et le problème, c'est que souvent, tu penses que le médecin sait mieux que toi, alors que c'est toi qui es responsable de ta santé et de celle de ton enfant. C'est toi qui, si tu vis un accouchement traumatique, une épisiotomie, une instrumentation, une césarienne en urgence, c'est toi qui vas devoir te construire autour de ce vécu avec ton enfant. Et parfois, ce qui est délicat, c'est que des fois, quand les dames demandent leur dossier ou regardent et tout, ou se renseignent par la suite, sur le moment même, tu es en mode merci docteur, vous m'avez sauvée. Et puis finalement, quand le temps passe et que tu réfléchis et que tu analyses les choses ou que tu parles peut-être avec la personne qui t'accompagnait le jour de la naissance, elle te dit mais non, mais ça, c'était. Il s'est passé ça, 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 ça. Et quand tu recoupes les événements, tu te dis bah, on aurait pu ne pas en arriver là, on aurait pu éviter ça. Pour ça, il faut sortir du schéma où c'est le médecin qui sait tout et il faut apprendre à te faire confiance à nouveau. Et c'est en te faisant confiance et en t'écoutant que tu vas sortir de la culpabilité. Si tu sais que tu as fait du mieux que tu peux à un moment M avec les données que tu avais à ce moment-là et la personne que tu étais à ce moment-là, tu peux laisser la culpabilité derrière toi. Et surtout, quand on analyse une situation, il faut tenir compte du contexte. Si tu prends une situation difficile que tu as vécue il y a 6 mois et que tu te dis « Oh, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », mais tu n'aurais pas pu à ce moment-là parce que tu n'avais pas les données et les connaissances que tu as maintenant en ta possession. Simplement, si tu analyses des situations difficiles que tu as vécues dans le passé, tu peux te dire bah, « Maintenant, j'ai tel outil et donc, si je revis une situation similaire, une situation difficile, je pourrais mettre ça, 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 ça et ça en place » pour la vivre différemment, la vivre mieux et être actrice à la place de subir la situation, par exemple. Mais à ce moment-là, tu as fait du mieux que tu pouvais et tu as été la meilleure maman et la meilleure femme possible pour ton enfant et pour toi-même. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais que ton corps, ton cerveau ont fait des changements et les changements nécessaires pour que tu t'occupes au mieux de ton bébé pendant la grossesse. Et donc concrètement, comment tu peux utiliser ces changements pour prendre confiance en toi et laisser la culpabilité derrière toi? Tu peux commencer par observer ton bébé. Tous les jours, pendant sa toilette, son bain, tu vas voir si sa peau elle est blessée, tu vas voir s'il a des changements de coloration, s'il a des boutons. Donc ton premier outil, c'est ta vue. Ensuite, tu vas toucher ton bébé. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid au contraire? Est-ce qu'il est tonique ou est-ce qu'il est mou? Ça va te donner des informations aussi sur son état de santé. S'il est chaud, tu vas prendre sa température, ça va te confirmer ou infirmer ce que tu as ressenti. Pareil si tu le sens un peu froid. S'il est très tonique, tu peux te dire, oh, c'est quand même bizarre, il n'était pas autant, ou je l'ai jamais connu autant tonique, donc tu vas surveiller aussi. S'il est mou, ça te donne aussi des informations. Par exemple, un bébé qui a une ictère, une jaunisse, en quelques heures, il passe d'un bébé avec un tonus normal à un bébé tout mou, tout flagada. Et donc ça donne directement une information importante sur l'état de santé de ton bébé. Tu vas écouter comment il respire, est-ce qu'il respire comme d'habitude? Est-ce qu'il pleure? Comment sont ses pleurs? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce que ce sont des pleurs qui sont inconsolables? Ah voilà, en les écoutant et en connaissant ton bébé, tu sauras vers quoi te diriger. Ensuite, tu vas sentir ses urines. Est-ce qu'elles ont une odeur différente de d'habitude? Est-ce qu'elles sentent fortes? Est-ce qu'elles ont l'air concentrées? Elles sentent fortes. Bon, ben, je vais quand même. Il a de la fièvre, ses urines sentent fortes. Ben, je vais appeler le pédiatre, je vais lui dire. Et lui va dire, ah ben, au vu des données que vous me présentez, ce serait intéressant de voir si. Il n'y aurait pas une infection urinaire, on va faire un prélèvement et on va faire voilà, une analyse. Et donc tout ça, il va pouvoir le faire aussi grâce à ce que toi, tu as observé. Et c'est comme ça que tu vas garantir la bonne santé de ton enfant. Est-ce qu'il a quelque part une plaie ou un écoulement, genre un œil qui coule et qui ne sent pas très bon? Bah, tu te dis, ah, ça c'est pas normal, on va aller voir aussi. Et donc, toutes ces données vont te permettre de savoir comment va ton enfant et de contacter le pédiatre si besoin. C'est toi qui vas lui donner toutes ces informations, qui va l'aider à trouver le bon diagnostic ou les bons examens à faire pour finaliser la collecte des données. Sans toi, il devrait chercher à l'aveugle, genre comme dans une aiguille dans une botte de foin. Donc, tu es importante, tu peux te faire confiance et surtout, parfois on ne voit rien, mais on sent qu'il y a quelque chose. Si tu as cette petite voix qui te dit il y a un truc qui ne va pas, fais-toi confiance, écoute-toi et développe-la, c'est vraiment précieux. C'est comme ça qu'il y a des mamans qui vont chez le médecin qui disent il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en investiguant, en cherchant, on finit par trouver. Et généralement, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux te faire confiance à 100% parce que tu es au contact de ton bébé tous les jours, tu le connais mieux que personne. Et donc forcément, tu vas percevoir tous les ces changements d'état, de santé. Même si tu n'arrives pas à mettre un mot dessus, ton corps va le percevoir, ton cerveau aussi. Et ça va te faire une petite alerte et tu vas dire, bon, là, il faut chercher parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour te donner un exemple, ma fille est tombée il y a plusieurs mois de haut sur la tête. Donc vraiment le genre de chute qu'on n'aime pas du tout. Elle est tombée, je l'ai récupérée tout de suite et je suis allée à l'hôpital. Mais j'étais pas inquiète. J'y suis allée par acquis de conscience parce qu'évidemment, après une chute pareille, on va aux urgences. Mais j'étais pas profondément inquiète parce que, je sais pas, j'ai entendu à son pleur, j'ai vu à son comportement. Voilà, toutes les infos se sont recoupées et j'ai vu que ça allait quand même. Et on est allé chez l'urgentiste nous a reçus, elle a été examinée. Il nous a dit de la surveiller, que tout allait bien. Effectivement, elle allait bien. Et au contraire, parfois, elle peut tomber et à son pleur, j'entends que là, ça va pas. Qu'elle a eu très peur ou qu'elle a eu très mal, mais qu'il s'est passé quelque chose d'important pour elle. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses qui peut te faire percevoir l'état de santé de ton enfant et comment il va. Et plus tu vas t'écouter et plus tu vas entendre quelque part et plus tu pourras être confiante et te faire confiance. Donc une fois que tu apprendras à t'écouter plus ou que tu te feras à confiance à 100%, tu pourras aller chez le médecin et lui dire « Mon enfant ne va pas bien, il a tel comportement. » Et il va te dire « Bon, même s'il ose remettre ta parole en question, tu t'iras juste chez quelqu'un d'autre et tu te diras « Ben non, moi je suis persuadée qu'il y a quelque chose, donc tu vas continuer à chercher, tu vas pas abandonner ou dire « Bon, si le médecin m'a dit que c'est ok, c'est ok. » Forcément, l'erreur est humaine, ça arrive, même si on n'aime pas que ça arrive dans la santé, ça arrive. Il y a certaines personnes qui sont mieux formées dans certains domaines ou des domaines plus spécifiques qui ont d'autres compétences. Mais un bon praticien, il connaît ses limites et il va te dire « Bah écoutez, là j'ai fait ce que je pouvais, je ne trouve pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous avez, ce que votre enfant a, je vais vous recommander un confrère, un spécialiste ou autre qui va pouvoir vous aider. » Donc ça c'est aussi important que le praticien qui est en face de toi ne se prenne pas pour Dieu. Et sache que il a des limites comme tout le monde. Qu'une fois qu'il a atteint ses limites, il passe le relais. Donc ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que tu es forte, plus forte que ce que tu crois, et que tu peux te faire confiance. Et qu'en te faisant confiance, tu vas voir que tout va être plus facile et plus simple. Et que la culpabilité, l'angoisse, les questionnements vont diminuer. Tout ça, c'est autant valable pour une maladie aiguë que pour une maladie chronique, comme par exemple un gros pic de fièvre ou une maladie plus chronique comme du reflux ou des allergies. Et malheureusement, y a peu de professionnels. En Belgique, on a de la chance, franchement. Mais en France, le désert médical joue aussi dans ton sentiment de vulnérabilité et la culpabilité qui peut en découler. Parce que y a peu de professionnels. Les spécialistes ont des listes d'attente super longues. Et donc, ça participe aussi à la vulnérabilité que tu peux ressentir. Si tu n'es pas satisfait de ta prise en charge, tu ne peux pas dire « Bon, écoutez, je suis désolée, mais je vais changer de médecin. » Tu vas peut-être le garder pour toi. Chercher s'il y a un autre médecin disponible et s'il n'y en a pas, tu vas te dire avoir un médecin dans lequel j'ai pas totalement confiance ou pas de médecin, tu vas peut-être garder ton médecin. Et donc pour essayer de contrer ça et de t'aider, ce que je te propose c'est de mettre en commentaire le nom de ta ville, de ton village, de l'endroit où tu vis, bref, et le nom d'un professionnel autour de la maternité, ça peut être gynécologue, pédiatre, médecin traitant, sage-femme, kiné, qui t'a écouté, qui t'a bien soignée et dont t'as été contente. On a toutes nos perles rares et souvent on les a trouvées après des difficultés, des désillusions. Donc si tu veux éviter cette difficulté à une autre maman, je te propose de le mettre en commentaire, je suis sûre que ça aidera beaucoup de femmes. Forcément, lorsqu'on traverse une période difficile, le couple est mis à l'épreuve. Et malheureusement, lorsque ton bébé va pas bien, que tu es en postpartum, je te le rappelle, parce que Je l'ai pas dit depuis longtemps, le mot postpartum, mais on est toujours en plein dedans. Que tu dors plus assez, que tu es angoissée, tes relations avec les autres sont forcément impactées. Et la première relation qui sera impactée, c'est celle avec ton compagnon, parce que c'est lui qui partage ta vie, compagnon, compagne. Et c'est lui qui passe ses journées en dehors de la maison et qui comprend peut-être pas entièrement ce que tu vis. Il sait pas que t'as passé des heures dans les pleurs et que t'as pas mangé depuis le matin. Il le sait peut-être, mais entre le savoir et le vivre, il y a un monde. Parce que oui, il sait que bébé a pleuré aujourd'hui, d'accord, mais c'est pas lui qui a vécu ses pleurs, qui est resté, qui l'a accompagné, qui a fait ce qu'il pouvait, qui n'a pas mangé, qui s'est peut-être pas lavé depuis la veille, et qui malgré ça n'a pas réussi à consoler ou soulager son enfant. Donc forcément, lui, quand il rentre, tout ce que t'espères, c'est qu'il prenne son bébé. Et que t'aies quelques minutes pour toi. Alors à ce moment-là, je dis son bébé, parce que si tu l'as vécu, à ce moment-là, c'est plus ton bébé, c'est plus votre bébé, c'est le sien. T'as juste envie de lui donner. Et lui, bah forcément, il n'a pas toujours conscience de l'intensité de ta journée, de ce qui vient de se passer pour toi. Tu peux du coup avoir l'impression que t'es seule dans la difficulté et te renfermer. Ou comme ton bébé, tu peux avoir besoin de décharger quand il rentre et tu risques de pas être très sympa et pas très accueillante avec. Alors que finalement, indirectement, il n'en peut rien. Peut-être que lui, il aurait préféré passer la journée avec toi et t'épauler et t'aider. Mais c'est comme ça, et si ça arrive que tu passes un peu tes nerfs dessus, c'est pas ok de passer tes nerfs sur quelqu'un, mais ça arrive, on le sait. Si c'est ton cas, essaye de lui expliquer ce que tu vis, et surtout, excuse-toi. Et si l'incompréhension continue, ça va créer de la distance entre vous, ça va t'isoler et te fatiguer encore plus, et c'est vraiment pas ce dont tu as besoin en postpartum. Pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux, tu peux par exemple expliquer à ton compagnon ta journée et lui dire que quand il rentre, tu as besoin de temps pour toi, c'est vital. Si vous en parlez en amont, vous allez pouvoir vous dire « Bon, quand tu rentres, moi j'ai besoin d'une heure pour moi. » Et quand il rentrera, il sera ok et il s'attendra à s'occuper de son enfant pendant une heure, il sera disponible pour lui. Parce que par exemple, si toi tu te dis « Ah, il va bientôt rentrer du travail, c'est bon, je vais pouvoir avoir un moment pour moi. » Et que lui se dit « Oh, j'ai une journée fatigante, je vais bientôt rentrer du travail, cool, je vais avoir un moment pour moi. » Là, il y a un truc qui marche pas, qui va s'occuper du bébé. Donc, si vous n'en avez pas parlé au préalable, vous avez tous les deux des attentes, mais elles sont complètement à l'opposé, vos attentes. Forcément, des attentes à l'opposé, de la fatigue et de l'énervement, ça va faire des conflits. Alors que si vous en avez parlé au préalable, il rentre en se disant « Bon, elle a une journée difficile, elle a besoin d'une heure. Ok, je rentre, je m'occupe du bébé pendant une heure, et puis après, je pourrais souffler aussi à mon tour. Et toi, tu as pu te recharger un peu tes batteries et être plus tranquille. » C'est vraiment important de parler et d'expliquer les choses. Explique-lui aussi que tu as besoin de soutien, simplement le quotidien à la maison avec un bébé, c'est pas les vacances. Et que lui, le travail, c'est pas les vacances non plus, on est d'accord. Mais que c'est une période difficile de transition, tu es en train d'apprendre, tu es en train de te construire en tant que maman, et donc ça te demande aussi énormément d'énergie. Ta charge mentale, elle a explosé. Et donc, tu as vraiment besoin de son soutien. Essaye de parler en jeu aussi, parce que si tu commences tes phrases en tu, il va se sentir agressé, il sera sur la défensive. Et s'il est sur la défensive, tu n'auras ni l'écoute ni la compréhension que tu demandes. Et cette discussion va juste mener à rien et vous énerver tous les deux encore plus. Si par exemple, il arrive et tu dis, il se pose et tu lui dis « Oui, mais tu devais le prendre, c'est ton enfant, blablabla. » Et moi je suis fatiguée et je veux que tu le prennes et que tu t'en occupes, mais tu t'en rends pas compte. Lui, il va pas écouter déjà la fin de ta phrase et il va te dire t'avais qu'à me le dire si tu voulais que je le prenne et voilà, et il va te dire je peux pas deviner si tu me le dis pas, et donc tant pis, débrouille-toi, et on fera, enfin voilà, ça finit souvent sur rien au final, il y a aucune décision intéressante qui est prise, donc ça finit sur de la frustration et de la colère. Alors que si quand il rentre, par exemple, si vous n'en avez pas discuté au préalable, tu peux lui dire « Écoute, j'ai eu une journée difficile, j'ai vraiment besoin d'un temps pour moi. Est-ce que tu es ok de t'occuper du bébé pendant une heure ?» Et bien là, déjà, la demande est complètement formulée différemment, même si le fond est le même. Et il pourra peut-être entendre te dire « Ouais, elle a eu une journée difficile, elle est KO. Oui, je m'en occupe. Ok, d'accord. » Et voilà, là, tu auras été entendu dans ta demande. Donc c'est vraiment important de parler en jeu et de quitter l'attaque et l'agressivité. On dit que la communication, c'est la base, et c'est vrai. Si tu sais écouter, si tu sais parler, et si l'autre sait écouter et parler, vous serez capable de surmonter toutes les épreuves. Alors, ce ne sera pas facile, hein, mais c'est possible de le faire. Et le postpartum met le couple à l'épreuve, la maladie d'un enfant met le couple à l'épreuve, la douleur chez ton bébé, la fatigue, tout ça, ça va doublement vous mettre à l'épreuve. Donc c'est ok d'avoir des moments difficiles, mais le principal, c'est de pouvoir exprimer ce dont tu as besoin, d'être entendu et de toi aussi être dans la capacité d'écouter et d'entendre la personne qui partage ta vie et d'entendre ce qu'elle a à te dire. Ça arrive souvent que quand tu écoutes une personne quand ça va pas, tout est de la faute de l'autre, sauf que vous êtes deux dans la situation et si l'autre fait des actions qui ne te plaisent pas mais que tu dis rien, quelque part tu les cautionnes. Si ces actions ne te plaisent pas et que tu ne le dis pas, ben l'autre ne peut pas le savoir de toute façon, donc il va continuer. Et donc c'est dans ce sens-là où je te dis que on est deux dans une relation et quand ça ne va pas, on est deux à devoir travailler sur nous. Quand ça ne va pas, si ça ne va pas et que cette relation ne te convient pas et que tu restes, ben finalement c'est aussi ta décision et ton choix de rester et donc ça partage aussi les torts, on va dire. Donc forcément, tout ça, ça ne va pas faire disparaître ta fatigue et la douleur de ton bébé s'il est douloureux, ce que je ne te souhaite évidemment pas. Mais ça va vous permettre de naviguer dans le même sens, parce que quand on est dans l'étude, dans l'accusation et tout, il y en a un bout de la pièce et l'autre à l'autre bout, et de temps en temps, vous essayez de vous rejoindre, vous touchez du bout du doigt, et puis la fatigue et tout ça reprend, le postpartum remonte. Et vous vous éloignez alors que c'est possible de marcher, traverser la route en étant main dans la main. Pour finir cet épisode, j'ai envie de te parler d'un post, d'un article ou d'une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai découvert le post d'une maman sur un groupe Facebook et elle explique qu'elle vient d'accoucher et que l'allaitement est très très important pour elle parce qu'elle n'a pas pu allaiter son premier bébé et donc là, elle a un vrai projet. Malheureusement, en milieu à l'hôpital, à la maternité, elle ne s'est pas sentie aidée ni soutenue. Et donc là, elle a posté un mot sur un groupe de mamans et elle a pu recevoir de l'aide et maintenant son bébé t'aide bien. Et elle se sent reconnaissante d'avoir croisé cette maman qui l'a aidée. L'entraide et le soutien qu'une autre maman peuvent apporter sont vraiment hyper précieux et parfois, en tant que personne, on n'a pas conscience de la valeur qu'on a et de ce qu'on peut transmettre. Donc en prenant confiance en toi, en tes capacités, en osant t'affirmer, tu vas rayonner sur tes proches et sur les personnes qui croiseront ton chemin et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast à tes proches ou aux femmes que tu connais. J'espère que mes petites phrases te seront utiles. N'oublie pas que pour t'inscrire et recevoir les conseils donnés dans le podcast, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Et laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as aimé ou si tu as envie que j'aborde d'autres sujets dans les futurs épisodes. C'est là qu'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.